Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Imaginez que vous marchez au petit matin sur le vieux port de Marseille. Il est 6h. La lumière se lève lentement sur les quais, les goélands crient au-dessus des bateaux et l'air sent le sel et l'essence. Aujourd'hui, tout paraît calme. Mais il y a 60 ou 70 ans, ce décor tranquille abritait l'un des centres nerveux du crime international. Une ville sur laquelle les services américains posaient des jumelles métaphoriques, persuadés que dans ses ruelles, dans ses entrepôts, dans ses garages, se jouait l'avenir de la toxicomanie sur leur propre territoire. Car Marseille n'était pas seulement un port, c'était la porte d'entrée d'une organisation tentaculaire, ingénieuse, discrète et extraordinairement rentable. Une organisation qu'on appellera plus tard, presque malgré elle, la French Connection. Et pour comprendre cette histoire, il faut d'abord accepter une idée simple. Rien n'a commencé par un grand complot international, rien n'a débuté avec des réunions secrètes, rien n'a été conçu comme un projet global. Tout s'est construit petit à petit, à partir d'hommes qui cherchaient à survivre, puis à prospérer, puis à dominer. Tout commence véritablement avec le milieu marseillais des années 30. À cette époque, Marseille est un carrefour mondial, un patchwork social où se croisent dockers, marins grecs, commerçants arméniens, importateurs italiens, policiers suspicieux, truands locaux et bien sûr les Corses. Les Corses de Marseille ne sont pas encore les parrains que la presse mythifiera plus tard, mais ils savent s'organiser, ils se serrent les coudes et ils comprennent mieux que d'autres comment tirer parti du chaos. Au centre de ces réseaux, on retrouve très tôt les noms de Paul Carbone et François Spirito, deux figures presque mythologiques du banditisme français. Gangsters élégants, parfois brutaux, mais surtout organisateurs hors pair. Ils construisent autour d'eux des réseaux qui vont de la prostitution aux rackets en passant par les trafics variés. Quand arrive la guerre, ils prennent des rôles plus sombres, mais leurs protégés, eux, continuent d'apprendre, d'observer et de monter en puissance. C'est là qu'entrent en scène les frères Guérini. Antoine Guérini naît en 1902 en Corse, débarque à Marseille avec son petit frère Barthélemy, surnommé Mémé. Antoine est un stratège, un diplomate, un homme capable de négocier avec un maire, un commissaire, un docker ou un proxénète sans élever la voix. Mémé, lui, est plus rude, plus dur, plus impulsif. Ensemble, ils vont bâtir un empire criminel qui semble taillé sur mesure pour l'après-guerre. À la libération, Marseille est détruite, affamée, mais paradoxalement pleine d'opportunités pour, qui sait, où poser le pied. Les Guérini prennent le contrôle progressif des cercles de jeu, des bars, des machines à sous, mais aussi des secteurs plus invisibles. Les assurances truquées, les entrepôts du port, la protection, les marchés parallèles. Et parmi ces activités, une reste presque invisible mais capitale, la transformation de la morphine base en héroïne. Il faut imaginer la scène. Dans un garage anonyme de la banlieue marseillaise, une voiture entre la nuit, les phares éteints. À l'intérieur, des sacs de toile contiennent des pains de morphine base, une pâte beige qui n'a rien d'impressionnant mais qui promet des fortunes à celui qui sait la traiter. Autour d'une table, un ou deux chimistes, des hommes discrets, souvent autodidactes, mais extrêmement méticuleux. On cite souvent les noms de Joseph Césari, de Joseph Marie, de Jean Venturi, de Georges Bianchini. Chacun développe ses méthodes, ses recettes, ses proportions d'acide et de solvant. Leur travail n'a rien de glamour, c'est lent, dangereux, précis. Mais le résultat, c'est une poudre blanche d'une pureté exceptionnelle, parfois plus de 90%, bien supérieure à celle produite ailleurs dans le monde. C'est ce qui va faire la réputation internationale de Marseille, une qualité d'héroïne qui séduit les mafias américaines. Et c'est là que le réseau change d'échelle, car la morphine base ne vient pas de Marseille, elle arrive de Turquie. Dans les années 50, la Turquie est l'un des premiers producteurs mondiaux de pavots. La morphine base est fabriquée légalement, mais une partie glisse dans les circuits parallèles. Des passeurs l'acheminent vers le Liban, la Syrie, l'Italie, parfois par bateau jusqu'au port de Marseille. Une fois l'héroïne raffinée, il faut l'envoyer aux États-Unis. Et c'est là que la Cosa Nostra entre en scène. Dans les quartiers new-yorkais, les familles criminelles, Bonanno, Gambino, Lucchese, cherchent depuis longtemps un produit stable et rentable. Le jeu rapporte, la prostitution aussi, mais la drogue, elle, promet des marges qui dépassent toute logique. Carmine Lillo Galante, lieutenant des Bonanno, joue un rôle déterminant. Il organise la réception, la distribution et recrute des passeurs capables de transporter la marchandise sans attirer l'attention. Parmi eux, Pasquale Pazzi Fuca, Vini Papa, Salvatore Polizzi, des hommes que la DEA connaîtra bientôt par cœur. Les années 50 et 60 voient le réseau atteindre une ampleur inédite. Les services américains estiment, avec prudence mais certitude, que près de 70% de l'héroïne consommée aux États-Unis passe par Marseille. Cela signifie que dans les rues de Harlem, de Brooklyn ou de Chicago, la poudre vendue dans les années 60 est presque toujours née quelque part dans un hangar provençal. Pendant ce temps, à Marseille, les Guérini continuent de régner en maître. Antoine renforce son image de parrain courtois, presque paternaliste. Mémé, lui, s'occupe de rappeler à tout le monde pourquoi il ne faut pas oublier qui commande. Mais l'Empire tremble. En 1965, la police française, sous la direction du commissaire Marcel Morin, démantèle un vaste laboratoire à Bandol, dirigé par Joseph Marie. C'est un coup dur pour le réseau, un signal d'alarme. Deux ans plus tard, en 1967, Antoine Guérini est assassiné sur une route près d'une station-service, dans des conditions qui feront encore couler de l'encre des décennies plus tard. Officiellement, un règlement de compte. Officieusement, peut-être une réorganisation interne, une révolte de jeunes loups du milieu, impatients de tirer leur part du gâteau. À partir de là, les choses se détraquent. D'autres clans émergent, plus violents, moins respectueux des anciens codes du milieu. Parmi eux, un nom commence à se murmurer dans les couloirs des nightclubs marseillais, Gaëtan Zampa, surnommé Tani. Ambitieux, charismatique, imprévisible, il deviendra l'un des chefs les plus craints des années 70. Mais la vraie rupture arrive en 1972. Sous pression des États-Unis, la Turquie décide d'interdire la culture du pavot. Cette décision, administrative en apparence, est en réalité un séisme. Sans pavot, plus de morphine base. Sans morphine base, plus d'héroïne marseillaise. Du jour au lendemain, le cœur de la French Connection cesse de battre. Les laboratoires ferment. Les chimistes disparaissent. Les arrestations se multiplient, de Marseille à New York. Le réseau s'effondre, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un silence étrange, comme si une ère s'éteignait sans y croire. Après cela, Marseille reste marquée par les règlements de compte. Tani Zampa affronte d'autres figures du banditisme, notamment Jackie Humbert, dit Jackie le Mat. Les balles sifflent, les cadavres s'accumulent, mais ce n'est plus la French Connection, ce n'est plus une organisation internationale, c'est une guerre locale. En 1984, Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Une fin tragique pour un règne violent. Aujourd'hui, il reste des archives, des témoignages, des livres, des films, mais aussi une forme d'aura presque mythologique. La French Connection continue de flotter dans l'imaginaire collectif comme une histoire plus grande que nature, où des chimistes amateurs ont défié la police mondiale, où des Corses de Marseille ont façonné le marché de la drogue américain, où des parrains à l'accent chantant négociés avec des mafieux new-yorkais dans un mélange étrange de ruse et de respect mutuel. Une époque où Marseille n'était pas seulement une ville, mais un centre névralgique du crime mondial. Et quand on marche aujourd'hui sur le Vieux-Port, au petit matin, difficile de s'imaginer qu'ici, il y a quelques décennies, se jouait l'une des histoires criminelles les plus vastes et les plus fascinantes du XXe siècle. Lorsque l'on raconte la French Connection, on parle souvent de réseaux, de filières, de ports, de saisies spectaculaires, de chiffres vertigineux. Mais derrière les grandes structures, il y a des hommes, des silhouettes parfois discrètes, parfois tonitruantes, parfois presque invisibles, mais qui toutes ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du crime. Imaginez d'abord Antoine Guérini, pas le fantôme de légende qu'on évoque dans les récits du milieu, mais un homme réel, un corse taillé comme un chêne, au regard sombre mais étonnamment doux. On raconte qu'il parlait bas, très bas, presque comme s'il avait peur que ses mots s'envolent. Né en 1902, élevé dans les montagnes corses où chaque famille connaît la valeur de la loyauté, il débarque très jeune à Marseille. Là-bas, personne ne lui déroule le tapis rouge. Il est un immigré parmi d'autres, un garçon sans fortune, sans contact, mais il a quelque chose que la ville lui reconnaît immédiatement. La capacité à écouter, comprendre et faire ce que les autres n'osent pas faire. Antoine n'est pas un chef de bande stéréotypé, il n'affiche pas la brutalité brute, il négocie, il apaise. C'est ce qui en fera l'un des parrains les plus influents de l'après-guerre. On disait qu'il connaissait le prénom de tous les dockers du port, qu'il pouvait serrer la main d'un maire le matin et partager un pastis avec un petit truand le soir. Un homme qui refusait la drogue officiellement. Officieusement, disons qu'il ne s'opposait pas à ce que d'autres autour de lui fassent fructifier un business dont il savait qu'il rapportait extrêmement gros. À ses côtés, il y a son frère, Barthélémy, Mémé, l'un des hommes les plus craints de Marseille. Physique massif, voix grave, caractère explosif. Si Antoine est la tête qui calcule, Mémé en est le poing qui frappe. Deux frères si différents qu'ils en deviennent complémentaires. Et ensemble, ils construisent une influence telle que, pendant des années, rien ne se décide dans le milieu marseillais sans qu'on jette d'abord un œil du côté des Guérini. Viennent ensuite d'autres figures, peut-être moins connues du grand public, mais essentielles pour comprendre l'équilibre du milieu. Dominique Venturi, par exemple, un homme au visage toujours masqué par une concentration presque inquiétante, capable de passer des heures à observer une scène avant d'agir. Venturi, c'est le logisticien silencieux, celui qui sait où trouver un hangar vide, comment contourner une route surveillée, à qui glisser une enveloppe ou quelle cargaison détourner. Un homme d'ombre, indispensable à une organisation qui repose entièrement sur des mouvements précis. Mais la French Connection n'est pas seulement une affaire de parrains charismatiques. Elle repose aussi, et surtout, sur ceux qu'on n'entend jamais, ceux qu'on ne voit presque pas dans les archives photographiques. Les chimistes. Les véritables artisans, les techniciens, ceux qui transforment une pâte brune en une poudre blanche qui vaudra de l'or à New York. Prenez Joseph Césari, un homme qui n'avait pas la prestance des parrains, mais qui possédait un don presque scientifique pour manier les acides et les solvants. Il travaillait avec une précision qui aurait fait rougir certains laboratoires pharmaceutiques. On le décrivait comme un homme silencieux, penché sur ses éprouvettes, concentré comme un horloger suisse démontant un mécanisme fragile. Lui, comme d'autres, Joseph Marie, Jean Venturi, Georges Bianchini, savait qu'une erreur pouvait tout faire exploser, littéralement. Les laboratoires clandestins n'étaient pas des lieux romantiques. Ils sentaient la chimie, la sueur, la peur. Le risque d'incendie, d'explosion, de rafles policières était permanent. Pourtant, ces hommes travaillaient avec un calme presque déroutant, conscients que leur savoir-faire était la clé de voûte du réseau. À l'autre bout du spectre, il existe les figures de la loi. Des policiers obstinés, tenaces, parfois fatigués, souvent désabusés, mais qui n'abandonnent jamais. Le commissaire Marcel Morin, par exemple, qui dirige plusieurs enquêtes majeures dans les années 60. Un homme méthodique, rigoureux, à l'ancienne, qui croit encore qu'une filature bien menée vaut mieux qu'un interrogatoire musclé. Morin a passé des nuits entières à surveiller des garages, à noter des plaques minéralogiques, à observer des silhouettes au loin en se demandant s'il n'allait pas encore rentrer bredouille. Mais en 65, c'est lui qui parvient à démanteler le laboratoire de Bandol, l'un des plus importants de la région. Une victoire rare, une de celles qui rassure un policier sur le sens de son métier. Et puis il y a les Américains, les agents du Federal Bureau of Narcotics d'abord, puis ceux de la DEA. Parmi eux, l'agent Eddie Egan, immortalisé malgré lui par Hollywood dans The French Connection. Egan était un policier brut, franc, énergique, qui croyait en l'intuition autant qu'en la preuve. Il traquait les trafiquants dans les rues de New York comme on traque un animal rusé. Il connaissait les bars, les restaurants, les ruelles où se négociaient les deals. Et quand les filières le ramenaient encore et encore vers Marseille, il a compris qu'il tenait quelque chose de colossal. Grâce à lui et à quelques collègues tout aussi déterminés, américains et français, commencent à travailler ensemble, une coopération alors rare dans l'histoire policière mondiale. Pendant ce temps, Marseille change. La ville devient une mosaïque de tensions. D'un côté, les quartiers escarpés où vivent les familles corses. De l'autre, les docks où se croisent Italiens, Espagnols, Grecs, Algériens, chacun venant reconstruire sa vie dans un port où tout semble possible. Les rues sentent le poisson, le café, la lessive, mais aussi parfois l'essence et les cigarettes bon marché que les contrebandiers transportent dans des filets de pêche. Dans les arrière-bars enfumés, on joue aux cartes, on se serre la main, on négocie. Parfois on menace, parfois on disparaît. Le milieu marseillais est une galaxie complexe et la French Connection n'est qu'une de ses étoiles, mais une étoile brûlante qui éclaire tout le reste. Dans les années 60, l'affaire prend une ampleur démesurée. Le FBI et la DEA multiplient les rapports. Les saisies deviennent de plus en plus importantes. À Marseille, certains commencent à craindre que le vent ne tourne. Mais d'autres, plus jeunes, plus audacieux, voient plutôt une occasion. C'est à cette époque que Gaëtan Zampa émerge. Zampa, c'est le cauchemar des parents, le fantasme des journaux, la fascination morbide de toute une génération. Né en 1940, il grandit dans les quartiers durs de Marseille. Il apprend vite, très vite, qu'ici, pour survivre, il faut frapper le premier. Zampa n'est pas un stratège comme Antoine Guérini. Il n'est pas non plus un exécuteur comme Mémé. Il est quelque chose de nouveau, un chef moderne qui comprend l'importance du flux, de l'argent, des alliances temporaires. Il n'a pas les codes des anciens et ne sait même pas de les respecter. Il impose sa loi avec une rapidité brutale. Et dans son ombre, Marseille sombre dans une guerre de bandes comme elle n'en avait jamais connue. Mais cette guerre-là, violente, spectaculaire, n'a déjà plus rien à voir avec la French Connection. Les Américains ont convaincu la Turquie d'interdire la culture du pavot en 1972. Un coup de tonnerre. Sans pavot, plus de morphine base. Sans morphine base, plus d'héroïne. Les filières s'effondrent. Certains trafiquants tentent de contourner l'interdiction par l'Iran ou le Pakistan, mais les routes sont instables et la qualité, elle, ne suit plus. En quelques mois, toute l'architecture patiemment construite depuis 20 ans s'écroule. Les laboratoires ferment, les chimistes se reconvertissent, parfois en ouvrant de petites entreprises locales, parfois en disparaissant discrètement. Les grandes figures du trafic sont arrêtées, assassinées ou s'exilent. Marseille perd son titre de capitale mondiale de l'héroïne, mais hérite d'une réputation qui durera plusieurs générations. Aujourd'hui encore, quand on évoque la French Connection, les regards s'écarquillent, les souvenirs se bousculent. Les plus anciens se rappellent vaguement des articles de journaux. Les plus jeunes imaginent des films policiers. Mais la vérité, c'est que cette histoire n'est ni un mythe, ni une légende. C'est une réalité humaine complexe, faite de pauvreté, d'ingéniosité, de corruption, de courage policier, de complicité politique parfois, et de destin brisé. Une histoire où Marseille se retrouve malgré elle au centre d'un trafic qui dépassait largement les frontières françaises. Une histoire qui a façonné une ville, une époque, une mythologie criminelle. Si vous vous promenez aujourd'hui dans les ruelles du Panier, si vous regardez les pêcheurs remonter leur filet sur le vieux port, rien ne vous laisse deviner que ces lieux tranquilles ont été, il n'y a pas si longtemps, les coulisses d'une machinerie clandestine internationale. Et pourtant, chaque pavé, chaque façade, chaque escalier semble encore porter en silence la mémoire de ces années où Marseille faisait trembler New York. L'économie du trafic, à l'époque de la French Connection, ressemble moins à un réseau clandestin qu'à une véritable industrie parallèle. Tout commence avec la morphine base turque, achetée pour une bouchée de pain dans les villages anatoliens, puis transportée jusqu'à Marseille. Là, les chimistes la transforment en héroïne numéro 4, un produit d'une pureté si élevée qu'il se revend des centaines de milliers de dollars le kilo une fois arrivé sur le sol américain. En quelques années, cette filière génère des profits gigantesques. Certains réseaux marseillais écoulent près d'une tonne de produits par an, une manne économique telle qu'elle suffit à acheter des silences, des protections, des complicités discrètes dans différents rouages administratifs. Aucun empire ne prospère sans relais. Douaniers indulgents, dockers bienveillants, transporteurs muets, et parfois quelques élus soucieux de préserver une tranquillité locale qui ne tenait debout qu'au prix d'une indulgence tacite. À Marseille, où les relations entre clans corses, notables et réseaux d'influence s'entremêlaient depuis longtemps, ces jeux d'alliance n'étonnaient plus personne. Les filières maritimes constituent l'ossature du trafic. Le port de Marseille, tentaculaire, offre 1000 cachettes. Des soutes mal vérifiées, des cargaisons modifiées, des marins achetés pour quelques billets, les trafiquants utilisent des cargos battant pavillon grec, libanais ou panaméen, mais aussi des voiliers privés, rapides et discrets. À partir des années 60, les avions remplacent partiellement les bateaux. Valises à double fond, bagagistes soudoyés, passagers réguliers dont le naturel trop tranquille finit par éveiller les soupçons. Le tout repose sur une mécanique bien huilée, où chaque homme connaît son rôle sans jamais poser trop de questions. Cette économie souterraine engendre inévitablement des violences. Les règlements de compte marquent l'histoire de Marseille. Antoine Guérini, assassiné en 1967 dans une station-service, Paul Mondoloni exécuté, des intermédiaires retrouvés dans des fosses ou éliminés en voiture piégée. La pression policière, l'argent colossal en circulation et les trahisons internes créent une atmosphère de paranoïa permanente. Les années 70 voient éclore une véritable guerre interne entre anciens parrains et jeunes loups du milieu, culminant avec l'ascension puis la chute de Tanizampa. Mais les conséquences sociales les plus lourdes se manifestent à des milliers de kilomètres, dans les rues de New York, Boston ou Chicago. L'héroïne marseillaise, d'une pureté redoutable, alimente une crise sanitaire dévastatrice. Les overdoses se multiplient, les services sociaux s'effondrent, la criminalité explose autour des points de vente clandestins. En France, la consommation reste plus limitée, mais commence elle aussi à gagner du terrain à la fin des années 70, dessinant les contours d'un phénomène qui ne fera que grandir dans les décennies suivantes. Lorsque la Turquie interdit la culture du pavot en 72, le système marseillais s'effondre, mais pas sans secousses. Les laboratoires ferment les uns après les autres, les trafiquants cherchent de nouveaux terrains de jeu et la French Connection disparaît officiellement, remplacée ailleurs par d'autres réseaux internationaux. Pourtant, son nombre demeure. Elle a laissé à Marseille une réputation tenace, à la police internationale des archives volumineuses et au monde criminel un modèle d'organisation dont certains s'inspirent encore. Au moment de conclure, une évidence s'impose. La French Connection n'a pas seulement été un trafic de drogue, mais le reflet des failles d'une époque, d'une ville et d'un monde en pleine transition. Elle rappelle que les empires criminels prospèrent toujours là où s'alignent la misère, l'opportunité, la corruption et le génie logistique. Et si l'histoire s'est refermée, le souvenir, lui, continue de flotter sur Marseille comme une brume persistante à la frontière du mythe et de la réalité. Je me suis servi d'Internet pour créer cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain.